Alors, c'est si vrai que...
Au risque d'être, je dirais, jugé comme je ne sais quoi.
C'est une première raison.
Donc c'est tout à fait important puisque...
Non, c'est pas tellement qu'on les connaisse mal.
Regards croisés. Un débat entre académiciens et personnalités. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Sauty de Chalon.
Bonjour, regard croisé consacré à la révolution numérique. Peut-on y échapper? Doit-on y échapper? Certainement pas. Il faut s'y adapter et même en prendre le meilleur. La question est de savoir si nous avons anticipé, si nous nous sommes donné les moyens et si nous avons mesuré l'ampleur même de cette révolution. Alors justement pour en parler, puisque ça change toutes nos règles, toutes nos codifications sociales, y compris dans le domaine de l'enseignement, de la transmission, j'ai l'honneur d'accueillir Pierre Lafitte. Bonjour Pierre Lafitte.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur des Alpes-Maritimes. Vous êtes surtout, si je puis me permettre cette formule un peu synthétique, le monsieur high-tech du Sénat, vice-président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, ingénieur général des mines. Et vous avez fondé Sophia Antipolis à Nice, qui est l'une des initiatives, j'allais dire, qui représente un modèle du genre en matière d'innovation technologique en France.
Oui, c'est même le modèle qu'a choisi le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin au moment où il a lancé officiellement les pôles de compétitivité. C'est-à-dire que c'est vraiment une zone qui a été créée il y a près de 40 ans et qui représente le début de ce qu'on peut appeler l'économie nouvelle basée sur la matière grise. Et par conséquent, la matière grise réunissant des centres de compétences tels que les centres de recherche, les universités, les grandes écoles, mais aussi les parties les plus dynamiques de l'économie, c'est-à-dire la partie recherche et développement des grandes entreprises. Et à partir de là, la création de nouvelles entreprises, des start-up, des sociétés innovantes, issus soit du système académique, soit des entreprises, de façon à créer une dynamique nouvelle liée en particulier à la révolution numérique.
Alors vous êtes extrêmement actif, vous parcourez toujours le monde entier pour justement prélever, regarder, promouvoir.
Absolument, d'autant plus que ça m'est d'autant plus facilité que Sophia Antipolis est devenue un modèle international de ce que représente la combinaison que je viens d'évoquer, y compris avec l'appui des collectivités locales et l'appui d'une politique d'innovation nationale ou européenne. Donc nous avons en cette matière une très bonne image, probablement plus importante hors de France qu'en France même et encore plus que dans le département.
Juste un point sur Sophia Antipolis, c'est une victoire du secteur privé, de l'initiative privée ou bien c'est une conquête de l'esprit public des collectivités?
Eh bien, initialement, c'était une opération que j'ai menée de façon totalement privée, en créant un groupement d'intérêt économique sans but lucratif, sans aucun appui financier public, qui est venu par la suite.
Donc l'État n'y est pour rien au départ?
L'État, au départ, n'y est pour rien, si ce n'est que la DATAR de Jérôme Monod disait « ça nous paraît très sympathique et nos services vous aideront, mais pas financièrement ». Donc il y a là quelque chose d'assez intéressant qui, comme en franglais, ça s'appelle du bottom-up, c'est-à-dire que dès le départ, les collectivités locales s'y sont intéressées, mais dès le départ, une partie simplement de la structure nationale s'y est intéressée, mais pas de façon traditionnelle en France, ce qui est quand même assez jacobine.
Pierre Lafitte, quel est le rapport en soi entre Sophia Antipolis et le sujet dont nous parlons, dont nous allons parler, la révolution numérique?
Eh bien, tout simplement, Sophia Antipolis partant de zéro, c'était une garrigue d'ailleurs dévastée de temps en temps par des feux de forêt. Et actuellement, c'est quand même le plus grand parc scientifique et technologique que nous avons appelé d'ailleurs très immodestement la Cité internationale de la sagesse des sciences et des techniques. Mais les sciences et les techniques évoluant, comme tout ce qui était lié à l'industrie lourde était déjà plus ou moins localisé dans des centres comme Fos-sur-Mer, comme des centres comme Dunkerque. Là. Et il faut se rappeler qu'il y a 40 ans, on parlait surtout industrie lourde. Là, dès le départ, on a dit on parle industrie de la matière grise. Et la matière grise qui se développait depuis un certain nombre d'années était surtout liée à l'informatique, les métiers de l'informatique, les métiers de la robotique et de la numérisation. Ce qui fait que dès le départ, nous avons eu l'appui de l'INRIA, l'Institut National de Recherche en Informatique Automatique, l'appui des plus grands académiciens s'intéressant à la pratique correspondante, je me souviens que Lyons, qui à l'époque était président de l'Académie des sciences, était très intéressé par le développement de Sophia Antipolis. Donc nous avons, dès le début, surtout attiré des sociétés, d'une part, et des centres de recherche, d'autre part, qui s'intéressaient à la numérisation de la société. Donc, dès le départ, nous étions dans ce domaine. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons à la fois un système de normalisation, notamment dans le domaine des télécommunications et de l'informatique, l'ETSI, European Telecom Standard Institute, l'Office de normalisation européen, est installé à Sophia Antipolis. C'est grâce à lui qu'on a créé le GSM en particulier. Et d'autre part, nous avons l'ERSIM, qui est le pendant européen du MIT et de la troisième partie qui est à Tokyo en matière d'utilisation, de préparation de l'Internet du futur. Donc nous avons vraiment une sensibilisation particulière à l'évolution de la numérisation.
Vous êtes en première ligne sur ces questions.
Nous sommes en première ligne. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que lorsque j'ai été élu sénateur, dès le départ, dès qu'il y avait quelque chose de scientifique ou de technique, je disais, on va le passer à l'AFITE. Ce qui ne me plaisait pas beaucoup parce que j'aurais voulu, et ça petit à petit, maintenant il y a beaucoup de sénateurs, donc je ne suis plus le seul high-tech au Sénat, heureusement. Et nous avons maintenant toute une équipe de sénateurs qui font que dans beaucoup de cas, les ministres, lorsqu'ils veulent faire passer une loi un peu compliquée sur l'innovation, qu'il s'agisse de la loi Allègre ou qu'il s'agisse de la récente loi de Valérie Pécresse, s'adresse d'abord au Sénat.
Pierre Laffitte, qu'est-ce qu'on entend par numérisation ?
Eh bien, c'est d'une certaine façon le fait que dans tous les domaines, il devient indispensable de pouvoir communiquer et de pouvoir communiquer mondialement. Donc, la communication mondiale actuellement, c'est d'abord et avant tout Internet, et Internet grand débit. C'est aussi la numérisation de beaucoup de données. Et actuellement, on s'aperçoit que, par exemple, il y a de la recherche considérable sur la numérisation du vivant. Donc, après avoir numérisé les données, après avoir fait des calculatrices, et les premiers ordinateurs étaient considérés calculateurs, c'est pratiquement toute la gestion de l'information qui devient numérique.
D'où vient le mot numérisation, numériser en soi ? Pourquoi a-t-on choisi ce mot ?
Eh bien, parce qu'on peut difficilement dire qu'il y a un point commun entre la gestion des images, la gestion des données vocales, la gestion des chiffres, soit identique. Mais avec le progrès fantastique des ordinateurs, qui sont des machines à calcul, et qui sont devenus des machines à écrire, et qui sont devenus des machines à étudier les surfaces, les images, et nous avons la possibilité de transformer toute une série de données que reçoivent nos sens en superposition de oui, non, 0, 1. Alors 0, 1 informatique, c'est un titre bien connu, mais c'est la transformation de toute une donnée sensorielle en nombre. Et par conséquent, tout devient numérisable. Et actuellement, vous avez par exemple des choses comme Second Life, qui est une réalité virtuelle qui est totalement numérisée et qui permet de tenir des réunions comme celles que nous avons aujourd'hui à distance en mettant des gens virtuels en contact à distance dans le monde entier. Donc on peut certainement considérer que nous sommes au début d'une transformation considérable du mode de vie.
Alors c'est cela justement, on va y venir, je vais vous en faire parler. La numérisation, si je synthétise bien pour être formel sur le sujet, c'est donc l'intégration en quelque sorte de toutes les données par le procédé informatique qui nous permet de tout transmettre par ce canal. C'est donc la fin du papier classique et du scribe accroupi, si je puis dire,
oui, qui retransmet les données. Parce qu'on constate
qu'il devient secondaire.
La vague de papier ne diminue pas parce que c'est une façon de stabiliser
le flux.
Mais il est certain que la notion de pixel, par exemple, maintenant est entrée dans les mœurs.
C'est certain.
Et ça veut dire que les gens comprennent bien qu'on peut avoir des photographies à distance. Et ceci, s'il n'y avait pas eu la numérisation massive d'un toute une série de données 0,1, 0,1, 0,1, on n'aurait pas la possibilité de considérer que la vue est un problème numérique. Or, on s'aperçoit que les nerfs optiques fabriquant eux-mêmes des formules numériques. Le cerveau est numérisé, le cerveau humain fonctionne comme un ordinateur.
Alors, ce n'est pas seulement un changement de technique. Pour vous, c'est un changement de société.
Alors, je crois que la conséquence peut être un changement de société. Et ce changement de société, comme nous sommes désormais dans un monde de plus en plus mondialisé, comme nous sommes désormais dans un monde où il y a des problèmes qui touchent absolument tout le monde, comme nous avons en même temps des problèmes avec notre planète que nous sommes en train de détruire, de consommer de façon abusive, nous allons être obligés de changer de mode de vie. Et nous pourrons le faire sans régresser, justement grâce à la numérisation. Je prends un exemple. L'engorgement des villes avec les voitures. On peut très bien considérer qu'une grande partie de ces transports sont devenus inutiles de par l'Internet grand débit. Donc, la notion de télétravail, par exemple, ou de travail à distance, permet de diminuer l'engorgement des villes.
Qui est très embryonnaire aujourd'hui.
Il ne fait que commencer. Mais nous avons, par exemple, la Finlande, ou même les Pays-Bas. Je prends deux exemples très différents à loisir. 20% des salariés dans ces deux pays télétravaillent.
C'est-à-dire en Finlande et aux Pays-Bas.
En Finlande et aux Pays-Bas. Alors, Finlande, on comprend parce que c'est un pays immense et pas très dense, mais les Pays-Bas sont au contraire un tout petit pays et très, très dense. Mais les salariés de ces deux pays, au niveau de 20% des salariés...
Un salarié sur cinq.
Un salarié sur cinq. En France, c'est 1 sur 10, ou plutôt 1 sur 100. Plus proche de 1 sur 100 que 1 sur 10.
Malgré la densité de population, ou plutôt à cause peut-être,
malgré la densité de population, malgré la concentration dans les villes, il y a eu des expériences, j'en ai lancé pour ma part dans les Alpes-Maritimes, ça prend beaucoup de temps à définir des changements de comportement, notamment, non seulement à cause des salariés eux-mêmes, mais aussi à cause de leur chef de service. Et le télétravail nécessite une pédagogie qui permet aux chefs de service de comprendre qu'ils ont au moins autant de possibilités de contrôle des gens, du travail des gens dans des télésites que quand ils sont à côté d'eux. Nous avons fait des expériences à Sophia Antipolis de télétravail pour des chercheurs. Et on se dit, si les chercheurs ne viennent pas tous les jours à leur bureau, comment vont-ils pouvoir encadrer les jeunes chercheurs, les jeunes thésards ? Eh bien, on s'aperçoit que s'ils viennent une fois par semaine, les thésards sont beaucoup plus contrôlés. Tout simplement parce que c'est le jour où les gens se rencontrent, discutent ensemble, discutent avec leurs élèves, leurs thésards, etc. Donc, il y a des habitudes qu'il faut changer. La sociologie, c'est une évolution très lente. Mais vous... c'est un exemple, mais parmi beaucoup d'autres.
Vous diriez que ça correspond plus à une culture nordique que latine, le télétravail ?
C'est pas évident, c'est tout simplement que les Nordiques ont commencé plus tôt. Mais je ne crois pas que ce soit une question de culture nordique, c'est peut-être une question de réaction syndicale en se disant, bah, avec le télétravail, on n'a pas les gens sous la main, mais on peut très bien faire en sorte que les syndicats puissent aussi avoir accès au télésyndicalisme. Donc il y a toute une modification culturelle qui est probablement nécessaire.
Hormis les métiers de contact avec la clientèle, on peut imaginer que tous les métiers comme ça soient l'objet, ou presque tous, ou la plupart,
presque tous.
d'une forme de télé à distance.
Quand vous avez dans une banque des gens qui passent leur journée derrière un ordinateur, c'est 95% des employés de banque. Ils pourraient très bien faire ça, non pas de chez eux, parce que je ne crois pas que le télétravail soit synonyme de travail à domicile. Travail à domicile, c'est le cas des professions libérales ou des choses de ce genre. Mais pour les employés de banque ou les employés dans le back-office de toutes les sociétés, que ce soit assurance, que ce soit même dans les hôtelleries, il y a des quantités de choses qui ne sont pas en contact avec le client. Donc, chaque fois qu'on a des sociétés de ce genre, il y a des possibilités de télétravail. Le problème, c'est l'organisation, parce que c'est difficile. Si on veut créer des télésites, il faut créer un certain nombre dans chaque département, de façon à ce que les gens qui vont travailler, par exemple, je prends l'exemple de ceux qui vont travailler à Nice pour les Alpes-Maritimes ou à Cannes, puissent être dans un même village du moyen pays ou de l'arrière-pays.
Mais juste une question, Pierre Lafitte. Hein. Quel est l'intérêt de construire des télésites où les personnes donc, ne travailleraient pas chez elles, hein, on est bien oui. d'accord, plutôt que ces personnes soient
dans leur domicile,
dans une succursale bancaire? Pourquoi les regrouper ailleurs de l'endroit où elles travaillent
habituellement? Parce qu'il va y avoir des gens qui travailleront dans des sociétés différentes.
Donc pour les faire travailler ensemble?
Pour qu'ils soient dans des lieux où on puisse avoir plus facilement du grand débit et qu'ils aient surtout une socialisation. Les gens ne veulent pas forcément être chez eux, séparés d'autres personnes. Et ceci, on a constaté que dès qu'on voulait faire du travail uniquement à domicile, le télétravail était très mal ressenti, notamment par les femmes. Donc il y a une forme de libéralisation par le travail en dehors de son domicile qui est importante et dont il faut tenir compte.
Pierre Lafitte, vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants.
Pour ou contre les OGM, l'émission Regards croisés vous propose un débat entre deux scientifiques avisés sur la question, Gérard Toulouse et Pierre Feillet. Faites-vous votre propre opinion à l'écoute des arguments des deux parties en téléchargeant librement cette émission sur canalacademy.com.
Regard croisé sur la révolution numérique et toutes les conséquences, le changement de société en particulier, c'est ce que développe Pierre Lafitte, sénateur des Alpes-Maritimes, sénateur spécialisé sur les questions d'ordre technologique, de haute technologie. Je vous ai présenté comme monsieur high-tech, mais on a bien retenu qu'il y en avait plusieurs au Sénat et que vous étiez désormais, si je puis dire, une équipe, vice-président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Alors pour bien cerner cette question, puisqu'on est encore sur le télétravail, vous diriez qu'aujourd'hui la numérisation offre toutes les conditions pour que le télétravail se déroule dans les conditions optimales.
Absolument.
C'est-à-dire qu'on a atteint le stade où on peut passer à une autre forme d'organisation du travail.
Absolument. Je crois que c'est important que tous les partenaires, notamment les donneurs d'ordre et les syndicats, puissent être associés à cette révolution du télétravail massif pour les salariés. Mais l'intérêt pour les collectivités locales, c'est qu'en même temps qu'elles auraient des télétravailleurs salariés, dont les employeurs vont payer une partie des frais généraux correspondants, elles peuvent à ce moment-là se dire « nous pouvons développer de nouveaux métiers ». Nous pouvons développer des maquettistes, par exemple. Nous pouvons développer des ateliers d'architecture locaux avec des moyens puissants liés à la numérisation, liés à des nécessités d'infographie pour lesquelles il faut parfois du matériel beaucoup plus lourd et plus cher. Par conséquent, la mise en commun, la mutualisation de ces matériels déjà en partie amortis par les salariés peut donner naissance à des quantités de petites entreprises qui seront innovantes et qui pourront d'ailleurs contribuer à une meilleure compréhension de la façon dont la numérisation de la société peut développer d'autres activités. Je prends l'exemple des organisateurs de conférences ou d'événements. Eh bien, ils peuvent se localiser n'importe où et en même temps utiliser ce qui existe dans l'organisation américaine Second Life. Second Life, c'est des réalités virtuelles dans lesquelles on peut tenir des conférences. Alors ces conférences peuvent correspondre à la volonté d'un parti communiste, d'un parti politique, de la volonté de tel groupe de scientifiques qui veulent discuter ensemble. Et par conséquent, tout ceci peut s'organiser. Un chimiste ou un mathématicien peut se dire, tiens, pourquoi est-ce que je ne ferais pas un workshop international sur telle partie des mathématiques nouvelles qui sont ma spécialité, dont je sais qu'il y a une trentaine de personnes de par le monde. Et bien, les trentaine de personnes, il les connaît, il les a parfois rencontrés dans des congrès, mais entre-temps, ils peuvent avoir la volonté de travailler en commun. Et ceci se développe de plus en plus avec la mondialisation. Donc, on pourra réunir un Chinois, un Indien, un Français, un Allemand, enfin, ou plusieurs.
Sur des thématiques
très, très, très ciblées.
Ponctuelles.
De façon extrêmement simple. Alors, si on combine ceci avec le téléphone portable, vous avez des outils qui sont tous à base numérique, qui deviennent mondiaux et qui permettent de faire disparaître la notion de distance.
L'entreprise, ce sont des techniques, mais c'est aussi Ce sont des hommes qui sont entre eux et volontairement entre eux tendus vers un objectif. Si vous les éclatez dans des centres de regroupement, comment maintenez-vous la cohésion de l'entreprise ?
Ah ben écoutez, ça c'est justement le problème le plus important, c'est que de temps en temps, il faut que cette entreprise n'oublie pas que la convivialité nécessite aussi la présence. Mais donc l'entreprise peut très bien dire, on va organiser une croisière dans les îles grecques et nous allons faire en sorte que les gens s'y rencontrent et passent quelques jours ensemble et qu'ils fassent une visite du Péloponnèse ou de telle ou telle île des Cyclades. Il y a donc une possibilité d'utiliser la numérisation et le télétravail pour des opérations de convivialité. Et je crois que c'est indispensable de tenir compte de cette nécessité de l'être humain d'être un être social et en même temps de pouvoir utiliser les nouvelles technologies de façon commode en gagnant du temps, de l'argent et surtout en dépensant moins en matière d'énergie.
De transport en particulier.
De transport en particulier.
Se rendre chaque matin à son boulot, pour vous, c'est ringard.
Ben, c'est pas ringard, c'est malheureusement indispensable encore, dans beaucoup de cas. Mais moi, je peux vous assurer que chaque fois que je peux télétravailler les heures de pointe, plutôt que de prendre ma voiture les heures de pointe, je le fais.
Et ça, c'est bien parce que l'on est passé à l'industrie de la connaissance,
absolument,
de l'information.
Absolument, que de toute façon...
Il n'y a plus la matière brute première
minérale.
Ce n'est
plus la matière brute. Les contacts téléphoniques, les contacts par voie Internet sont tellement faciles maintenant qu'on n'est jamais isolé. C'est parfois gênant. Il faut parfois fermer son téléphone portable, comme ce que j'ai fait tout à l'heure. Mais il y a indiscutablement à la fois ces liaisons et la numérisation. Alors, ce qui est important et dont on n'a pas encore parlé en ce moment, c'est que cette communication va se faire non seulement entre les individus, mais entre les objets. Et la numérisation liée à des objets permet d'avoir d'abord des contacts hommes-objets à distance. Vous pouvez très bien dire à votre machine à laver, mettez-vous en route à telle heure, parce que je vais arriver bientôt, ou à votre frigidaire de s'arrêter pendant quelques temps puisqu'il fait trop chaud et que ça consomme trop d'électricité et qu'il n'y a rien dedans, etc. Il y a donc des quantités de relations homme-machine, mais aussi machine à machine, qui vont se développer. Et là,
ce qui veut dire
toute une
qu'on
réflexion.
Aura pas forcément besoin de l'employé qui sera autour de la machine pour la surveiller, présence physique.
Ben, c'est-à-dire que l'employé peut s'occuper d'autre chose, il peut s'occuper par exemple du vieillissement de la population et aller visiter les vieilles dames. Donc, je crois qu'il y a, il n'y a pas de crainte à avoir en ce qui concerne les emplois. Parce qu'il y a tellement d'emplois de proximité qui vont devenir de plus en plus nécessaires et d'utilisation des ordinateurs que constitue le cerveau humain pour ne pas craindre le chômage généralisé.
Cela dit, les emplois de proximité sont souvent des emplois mal rétribués.
Ils
ce n'est pas
être
comparable avec de
probablement,
vrais emplois, quand même.
Mais oui, mais ils sont mal rétribués, sauf si, globalement, les emplois sont rendus plus nécessaires et donc mieux rétribués. Donc tout ça dépend de la richesse générale. Mais la richesse peut beaucoup plus être le mode de vie et l'intérêt de la vie et la qualité de vie être liée à la disponibilité d'emplois de ce genre. Ce n'est pas uniquement en consommant beaucoup d'essence dans les 4x4 qu'on est plus heureux.
C'est certain. Pierre Lafitte, est-ce que l'on peut voir l'aspect de la numérisation qui concernerait l'enseignement ? La capacité de transmettre des connaissances à distance, est-ce que c'est la fin des universités sur le modèle classique ?
Ce n'est pas la fin des universités sur le modèle classique, parce que le contact maître-enseignant est toujours nécessaire. Par contre, c'est la possibilité de développer massivement l'enseignement tout au long de la vie, la formation continue, de développer massivement l'enseignement dans tous les pays du monde, parce que c'est nécessaire.
Donc, y compris les plus pauvres, qui là trouvent un moyen d'accès phénoménal.
Et en particulier les pays pauvres, pour lesquels la combinaison du satellite et du téléphone portable correspond à une révolution dont on n'a pas encore idée. Je reviens d'Addis Abeba, où j'ai vu qu'il y avait en Éthiopie un champ de développement extraordinaire des capacités humaines de ce peuple. Le peuple éthiopien, vous avez 80 millions d'habitants, on ne sait pas exactement combien, qui sont à la fois très fiers, qui sont les plus pauvres du monde, et qui en même temps sont très travailleurs, et qui commencent à développer maintenant une progression économique non négligeable, mais pour lequel les besoins en formation sont considérables. On part de pratiquement zéro. Il y a quand même beaucoup de petites écoles locales, mais ces écoles, elles se peuvent être vivifiées justement par la notion d'enseignement à distance, appuyée sur une formation prioritaire pour des tuteurs, des tutorats dans les campagnes, auprès des instituteurs. On peut faire des choses extraordinaires. Et je crois qu'il y a là un domaine prioritaire pour l'utilisation, pour l'avenir de la société, l'avenir de l'humanité, de la numérisation.
Et vous avez été témoin, par exemple, en Éthiopie, de bouleversements considérables. Est-ce que les populations ont pris la mesure de cette chance qui leur était offerte ?
Les gouvernements ont pris la mesure récemment, mais vous savez que l'éducation est quelque chose qui nécessite des éducateurs. Ça me paraît évident. Et on ne peut pas remplacer purement et simplement par un public qui ne serait pas encadré d'une certaine façon, qui ne pourrait pas répondre à des questions qui ne correspondent pas à ce que quelqu'un d'un autre continent ou d'un autre pays pourrait leur enseigner. Donc il est indiscutable que la priorité pour un pays comme l'Éthiopie, c'est de les aider à la fois à développer des éducateurs de base et en même temps à les aider à développer la création par des universités tout ce qui est nécessaire pour le développement d'un pays qui se veut moderne. Donc il y a des initiatives privées nombreuses pour lesquelles je crois que la notion que nous avons maintenant développée, les volontaires internationaux en entreprise ou en administration, est très importante. Les VIE ou VIA sont une innovation française récente.
Et développe la numérisation, ces questions d'enseignement aussi.
Qui peuvent développer la numérisation, parce qu'en général, ce sont des jeunes étudiants, issus de grandes écoles, soit issus de l'université, qui font beaucoup de demandes et pour lesquelles les initiatives françaises, notamment dans le cas de l'Alliance euro-méditerranéenne, peuvent être très très importantes. Surtout si on l'étend à l'ensemble de l'Afrique et du Moyen-Orient, nous avons la possibilité que l'Europe devienne une masse comparable à l'Inde ou à la Chine, au point de vue population, et qui sera probablement à nouveau l'un des piliers de la modernité.
Là, il y a un instrument de développement, un levier considérable.
Absolument. C'est un levier considérable et c'est un levier de rencontre entre des cultures et donc de créativité supplémentaire. Parce que je suis convaincu que le progrès dans les innovations est lié au choc de culture, au choc au sens noble,
de rencontre et de croisement.
Pas de rencontre du type terroriste, mais à la rencontre de culture, la fertilisation croisée me paraît fondamentale. Entre des esprits de formes différentes et d'allures, de réflexions différentes.
Est-ce que vous avez une idée de... C'est peut-être un petit peu prosaïque de l'évoquer, mais ça coûte très cher de mettre en place tous ces systèmes de...
Mais absolument pas. C'est une question de volonté politique.
D'enseignement à distance en particulier, mais...
Mais non, mais nous dépensons beaucoup d'argent pour l'enseignement à distance. Simplement, probablement, pas en tenant compte d'une stratégie spécifiée. Je compte beaucoup sur l'Euroméditerranée, par exemple, pour développer la formation dans les pays euroméditerranéens. Et je pense qu'il faut en même temps viser une forme un peu élitiste de développement en essayant de développer des Sophia Antipolis un peu partout. Et je crois que ça permet d'avoir des relais qui est la connaissance de la culture et des besoins spécifiques du pays, et qui seront transposés, les modules, disons, de téléformation, en fonction des besoins locaux.
Oui, il ne suffit pas de balancer comme ça sur le net.
Exactement. C'est nécessaire, mais ça ne suffit pas. Je pense que là, vous avez un rôle particulier à jouer, parce que vous êtes à Paris, dans la capitale, auprès de l'Académie, des académies, de l'Institut. C'est probablement à partir de systèmes comme les vôtres que l'on peut arriver à trouver des relais locaux. Mais en même temps, il faudrait des relais locaux. Alors, je suis très content d'être arrivé à faire créer un relais local, par exemple, au Caire. Il y a maintenant une petite technopole, toute jeune, qui a 3-4 ans, donc qui a 5 ans d'existence, qui s'appelle Smart Valley, sur le modèle de Sophia Antipolis, et qui a déjà plus de 15 000 spécialistes, dont un certain nombre de sociétés, parmi lesquelles des sociétés telles que Alcatel, telles que Microsoft, telles que HP, telles que Valeo, y a installé un centre de recherche dynamique. Donc il y a en même temps les universités du Caire qui vont s'y développer.
Pierre Lafitte, vous restez avec nous, on parle de l'innovation, de la numérisation, de la révolution des mentalités aussi à ce sujet. Dans quelques instants, on continue avec vous, vous êtes notre invité de ce regard croisé.
Révisez vos connaissances sur Canal Academy avec le dictionnaire de culture générale de Gérard Lopiès. Cet ouvrage mêle à la fois art, science, religion, politique, histoire, droit, littérature, mythologie et ne présuppose aucun savoir préalable. Gérard Lopiès nous donne des détails au cours d'une émission Au fil des pages à télécharger librement sur Canal Academy.
Regard croisé avec Pierre Lafitte, sénateur des Alpes-Maritimes, vice-président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, ingénieur général des mines qui est spécialisé dans le domaine des hautes technologies, qui a fondé Sophia Antipolis. Et donc on en était resté à cette idée justement de technopole, vous parliez de celle du Caire en particulier, puis de formation à distance et de toutes les possibilités qu'offre le net, la numérisation. On est à l'aube d'une nouvelle ère, en quelque sorte. Est-ce qu'il y a un modèle économique qui se dessine, d'ailleurs, autour de cette nouvelle ère ?
Bien, moi, je pense que le modèle économique, c'est un bien grand mot. Je crois qu'il faut certainement réfléchir de façon importante. D'une part, sur le modèle économique tel qu'il est actuellement, avec ses limites, les limites du capitalisme à l'heure actuelle, avec en particulier les crises financières telles qu'elles se présentent, et en même temps réfléchir à ceci en tenant compte des différences culturelles des différents pays. Alors chaque fois que je parle de ce projet et de cette nécessité de réflexion, par exemple, j'ai eu récemment la visite à Sophia Antipolis du ministre chargé des nouvelles technologies du Japon, avec toute une délégation. Eh bien, je lui ai parlé de la réflexion sur l'évolution de l'éthique du capitalisme, et notamment du capitalisme financier. Il était très intéressé en disant « Ah, ça, c'est un sujet qui m'intéresse ». J'ai fait la même chose avec une visite que nous avons eue aussi du président de l'université Tsinghua, qui est la plus importante en Chine, à Pékin. Il est prêt à participer parce que ça l'intéresse. Ils se disent tous qu'il y a un modèle qui, en gros, est le modèle américain, lequel semble avoir dépassé ses limites dans ses domaines financiers, que le gouvernement américain est d'ailleurs en train de changer au point de vue modèle économique, notamment pour les banques, dont une partie trop importante était liée à quelque chose qui s'apparente à de la spéculation financière. Jusqu'à 30% des recettes des banques américaines. C'est un problème. C'est un problème parce qu'on ne peut pas diminuer tout d'un coup brutalement 30% pour toutes les banques américaines, leurs recettes, pour les ramener à zéro. Ça ferait une catastrophe. Mais c'est en train de se faire par suite des régulations imposées par le gouvernement américain. Et il a raison. Donc, nous avons certainement des réflexions sur le long terme par rapport au court terme qui était en train depuis quelques années de prendre le pas en ce qui concerne les entreprises. aux grandes dames des entreprises, mais les présidents ou directeurs de grandes entreprises se disent « mes actionnaires, ils veulent du résultat et ils veulent que les cours ne s'effondrent pas à chaque trimestre ». Donc, avoir une vision trimestrielle de la vie d'une entreprise qui est basée sur l'innovation, donc sur la recherche, c'est-à-dire sur du long terme, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut y réfléchir, et y réfléchir fortement, de façon à ce que les politiques nationales s'adaptent à ceci. Il y a donc là un problème. Et ce problème-là, c'est un problème de recherche économique, je dirais. Et là, il y a vraiment une nécessité de mondialiser cette recherche économique. Mais pour en revenir à ce que nous pensons en matière de numérisation, je ne crois pas qu'on puisse dire que nous avons d'ores et déjà un modèle économique lié à la numérisation. Chaque entreprise est amenée à réfléchir sur l'importance que peuvent avoir les problèmes de numérisation. Et nous venons, par exemple, de passer une convention à la Fondation Sophia Antipolis avec le CIGREF, c'est-à-dire le groupement des directeurs informatiques des grandes entreprises françaises, de façon à faire une formation permanente pour le pilotage et l'ensemble des directeurs généraux et présidents des grandes entreprises, qu'il s'agisse de Peugeot, Renault, etc., pour qu'elles comprennent quelle va être l'importance future de systèmes d'information à l'intérieur de l'entreprise. Ce n'est pas simplement les calculs et l'informatique telle qu'ils la pratiquent, mais aussi leurs relations avec les fournisseurs et les clients qui doivent être liés comme étant une entreprise élargie. Les fournisseurs et les clients d'une entreprise, ça fait partie de l'ensemble, aussi bien que les salariés et les actionnaires.
Okay. C'est-à-dire, Pierre Laffitte, vous êtes en train de nous dire que les directeurs d'informatique des grandes entreprises françaises ne savent pas encore vraiment ce qui les attend demain et qu'on va leur dire comment ça va se passer.
Mais non,
grâce
mais on
ne
va pas leur
révolution.
Dire. Ils vont d'abord échanger ce qu'ils font oui. entre eux. Certains d'entre eux ont déjà décidé d'avoir ce modèle où ils intègrent les clients et les fournisseurs, notamment Dassault Systèmes, par exemple, et ils réussissent très bien. Donc, il y a un échange entre eux. Et puis en même temps, les
formations. Mais il y en a qui sont plus avancés que d'autres dans ce domaine.
Il y en a qui sont plus avancés que d'autres, bien sûr. Oui. Comme dans toute structure humaine, il y a des gens qui sont plus inventifs et qui sont un peu en avance. Par exemple, IBM fait des réunions dans le monde virtuel pratiquement tous les jours. Donc vous avez indiscutablement l'utilisation telle qu'elle se présente, mais aussi peut-être la façon dont ils peuvent préparer de nouvelles méthodes en fonction des opportunités nouvelles. Donc il y a là toute une question de remise en cause des traditions. Et ils ont ressenti ceci, et par conséquent, ils ont créé une fondation qui est abritée par la Fondation Sophia Antipolis.
Donc vous diriez que la France suit quand même les choses de très près
Je crois qu'il y a en France, dans ce domaine, et notamment dans le domaine de l'informatique, des compétences tout à fait extraordinaires. Vous avez ici à l'Académie des sciences un des meilleurs spécialiste de l'informatique mondiaux, qui s'appelle Gérard Berry, qu'il faudrait que vous fassiez parler ici, parce que c'est un homme grâce auquel, par exemple, nous avons une petite société qui s'appelle Esterel Technologies, qui est à la fois le fournisseur en informatique de base pour Boeing et Airbus. Chaque fois qu'il se vend un Boeing ou un Airbus, cette société a des royalties. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'il y a des modèles économiques qui tiennent compte d'une dynamique sur les progrès les plus récents des mathématiques appliquées à l'informatique.
Alors, quand je parlais aussi de modèle économique, je faisais allusion à Internet qui est perçu comme un océan de gratuité, où tout se vend, tout s'échange. Et donc, comme c'est gratuit, ça se dévalorise à mesure que c'est gratuit, puisque la connaissance gratuite, que vaut-elle ? On le voit dans la presse, dans les médias. Ouais. C'est un véritable enjeu parce que l'information devenue gratuite conduit à considérer que l'information n'a pas de valeur. Comment voyez-vous cela ?
Eh bien, écoutez, je pense qu'à partir du moment où vous avez une telle masse d'informations, il est évident qu'il faut aider les gens à l'utiliser. Et donc, ça fait dire qu'il y a des nouveaux métiers qui se développent, des gestionnaires de l'information. Donc, pour savoir ce qui se passe de par le monde et savoir quels sont les éléments qui sont crédibles et ceux qui ne sont pas, et il faut probablement un intercesseur.
Il n'existe pas.
qui existe très peu, mais ça commence. Ça commence, il y a des gens qui sont prêts à vous vendre de l'information certifiée. Donc, je crois que tout ce qui est uniquement gratuit, d'abord, de toute façon, c'est payé par quelqu'un, à un moment donné.
Forcément.
Alors, il y a des bénévoles, bien entendu, qui sont ravis de venir exposer devant une caméra de télévision ou devant un micro, ceux qui veulent qu'ils soient mieux connus, et notamment tous les scientifiques. Mais vous avez aussi des gens qui peuvent vous donner le tri de ce qui est prioritaire, de ce qui ne l'est pas. Quand vous avez une telle masse d'informations que vous ne pouvez pas traiter, vous êtes amené à dire « bon ben, je vais me remettre à quelqu'un d'autre ». Donc je pense que de ce côté-là, la gratuité totale ne pourra pas être considérée comme l'idéal à suivre.
Ça veut dire que vous donnez un avenir à l'Internet payant ?
Je pense qu'il y aura des structures qui seront payantes sur Internet. Et je pense...
Et rentables ?
Et rentable, bien sûr. Mais écoutez, si vous proposez de façon payante une salle de réunion sur Internet, vous aurez des clients. Et la société qui a lancé Second Life gagne beaucoup d'argent.
Il y a un avenir pour le payant sur Internet.
Il y a un avenir payant sur Internet.
Le MIT a ses cours en ligne,
oui.
Gratuitement.
Oui, mais ça lui permet d'augmenter les prix d'entrée au MIT pour les clients qui veulent y passer 2 ans, y passer un master.
Quelle est la mécanique là ? Quel est le...
Ah ben, c'est tout simplement, c'est qu'on paye pour aller s'inscrire au MIT.
Donc Internet sert d'hameçon, d'accrochage ?
C'est un accrochage. Et je pense pour ma part essayer de fabriquer un MIT à Sophia Antipolis et il est certain que ce ne sera pas des cours gratuits. Et ça peut être des cours gratuits ou des cours payants, mais avec des bourses. À mesure où il y aurait des sponsors. Au MIT, vous avez beaucoup de sponsors.
Pierre Lafitte, est-ce qu'on peut imaginer un système d'enseignement, puisque là on parle de l'enseignement, j'allais dire, haut de gamme universitaire, est-ce qu'on peut imaginer une déclinaison de ce système du primaire au baccalauréat ?
Moi, je pense qu'il est indispensable. Je pense qu'il est indispensable. Et je vais même vous donner un exemple éthiopien. J'ai vu à Addis Abeba une ferme école qui donnait des cours depuis la maternelle jusqu'au doctorat. Une opération privée. Ils faisaient payer 1 000 $ par an dans ce pays qui est le plus pauvre du monde. Et puis, ils donnaient des bourses pour ceux qui ne pouvaient pas payer. Ils ont fait actuellement de la formation professionnelle continue pour plus de 15 000 paysans illettrés, avec des méthodes pédagogiques adaptées, c'est-à-dire qu'au lieu de leur montrer des lignes qu'ils n'auraient pas su lire, ils leur montraient une maquette pour montrer comment on pouvait fabriquer un village plus commode, plus près d'un point d'eau, plus près de ceci, etc. Avec des petites maquettes, des huttes qu'on pouvait transporter d'un endroit à un autre. Et puis, avec des cours qui comportaient notamment la minéralogie du sol, la composition bactériologique ou la composition en produits de différentes natures, pour faire à la fois de l'agronomie et de la connaissance biologique du sol. Donc il y a une possibilité continue. Mais il faut, à ce moment-là, qu'ils aient des moyens en hommes et des moyens en diffusion.
Et on ne se passe pas des moyens, des ressources de l'homme.
Ah, on ne se passe absolument pas des ressources en hommes. On peut utiliser des ressources en hommes venues d'ailleurs, mais il faut avoir ses propres ressources en hommes. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Il faut qu'il y ait des points de relais pour le développement culturel et économique, notamment en ce qui concerne l'enseignement primaire.
Si on devait adapter ce système à l'éducation nationale ?
Mais on peut faire évoluer l'éducation nationale. J'en parlais pas plus tard qu'hier soir avec le ministre Darcos. Il y a à l'intérieur de l'éducation nationale énormément de gens qui ont beaucoup d'idées, mais que leur structure hiérarchique ou syndicale amène à ne pas en parler. Donc il faut trouver des formules pour qu'on ait des espèces de workshops d'innovation dans l'éducation nationale. Et je crois que Darcos est tout à fait d'accord avec cette idée.
Donc ça, ça serait possible, facilement?
À mon avis, c'est possible. Il y a énormément d'enseignants qui adorent leur métier, qui adorent la pédagogie, qui adoreraient participer à une rénovation pédagogique. À condition qu'on accepte le principe que ce n'est pas nécessaire que tout le monde, à la même heure, n'apprenne pas nos ancêtres les Gaulois.
Oui, c'est ça, c'était à la cloche qui sonne, à heure fixe, ouais, avec les élèves en rang, si tant est qu'ils se mettent encore en rang.
Exactement, c'est encore un peu ça, ça a évolué, bien sûr. Mais
ce système-là est dépassé.
À mon avis, le système des programmes tels qu'ils sont actuellement est un peu dépassé. Je dois dire que je suis un petit peu un ancien élève de Célestin Freinet, donc ça veut dire que j'ai un petit peu le côté innovateur, disons. Pour ne pas dire.
Ces innovations, je terminerai là-dessus, vous estimez tout ce qu'on a dit là sur la numérisation. Est-ce qu'il y a des organismes de pilotage économique au sein de l'État, des institutions françaises qui vont relayer tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, qui ont pris conscience de tout cela et de la nécessité d'anticiper?
Je suis sûr que toutes les personnes qui travaillent à l'intérieur de l'Institut national de la recherche informatique et automatique ou dans les départements spécialisés des universités ou du CNRS sont très largement d'accord avec ce que je viens de dire. Ça n'a rien d'original. Mais qu'il n'y ait pas d'organisme de pilotage systématique, moi je suis relativement satisfait qu'il n'y en ait pas, parce que ce n'est pas dans ma façon de penser en se disant « ça va venir d'en haut ». Il faut que les possibilités de développement d'innovation soient plus largement ressenties. Et la loi sur les universités, à cet égard, qui les a libéralisées d'une certaine façon, leur a donné une autonomie non seulement financière, mais aussi pédagogique, me paraît une très bonne loi.
Merci beaucoup Pierre Lafitte. Merci d'avoir été avec nous dans ce regard croisé pour parler de la numérisation, de tous les changements et bouleversements que cela induit dans nos mentalités, dans nos modes de vie, au travail en particulier, dans l'enseignement tel que vous l'avez décrit, les choses sont en train de bouger. Eh bien, on aura certainement l'occasion ici même à Canal Académie d'en reparler. Merci, je rappelle que vous êtes sénateur des Alpes-Maritimes, vous êtes vice-président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, ingénieur général des mines, et vous avez fondé Sophia Antipolis. À bientôt.